Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Tour de France, la 20e étape hier, remportée par Wout van Aert. Troisième victoire d'étape pour ce monsieur. Jonas Vingegaard garde le maillot jaune. On l'écoute.
Yeah, I think I also almost had a heart attack when that happened. I had the feeling I was not really taking big risks. And I think I just made a mistake going into the corner. I mean, I knew from last year that I had the level to compete for the victory, but then still to make it is something different, and it's just been really incredible. I always believed that I had a chance of winning the Tour de France, but now to actually do it is it's really incredible.
Et maintenant, le décryptage de la 20e étape avec Cédric de Oliveira et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Jonas Vingegaard vinder årets Tour de France, med mindre han styrter i morgen, det ved jeg godt, men Jonas Vingegaard ind i anden bedste side. Det kan godt være.
L'homme que vous entendez derrière moi s'appelle Tobias Hansen. C'est un Danois journaliste, commentateur pour la radio nationale, et c'est un des voisins de tribune de Thomas de Saint-Léger sur le Tour de France. Thomas, que l'on rejoint tout de suite dans Mondial Sport. Alors, on n'a pas tout compris, mais on sent l'émotion dans la voix de votre camarade de route, et pour cause, ça y est, c'est fait. Avant la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées à Paris, demain, Jonas Vingegaard est assuré de remporter le Tour de France.
Et oui, il devait simplement gérer son avance confortable sur Tadej Pogacar. 3 minutes 26 avant le contre-la-montre de 40 km aujourd'hui jusqu'à Rocamadour. Et il a fait tout le contraire, le Danois, au sang-froid, transformé en tête brûlée au contact de son rival slovène Pogacar. Il a même failli tomber et tout perdre à 2 km de l'arrivée. Finalement, il termine quand même deuxième de ce contre-la-montre derrière son coéquipier, le tout-terrain, le bulldozer belge, Wout van Aert.
Et encore impressionnant. Vingegaard devient le deuxième Danois sacré sur la grande boucle, 26 ans après Bjarne Riis.
Et oui, il n'était pas né à l'époque, Vingegaard, qui, gamin, grimpait les cols des Alpes quand il était en vacances avec ses parents. Sa carrière professionnelle, ensuite, n'a pas toujours été linéaire. Il a été un moment ouvrier dans une usine de poissons. Tout s'est accéléré, en fait, quand il a rejoint l'équipe Jumbo-Visma en 2019. Il se révèle au grand public l'an dernier seulement, deuxième du Tour de France derrière Tadej Pogacar. Les rôles et les positions sont inversés cette année, et c'est bien sûr une consécration pour lui.
C'est incroyable. J'ai vraiment du mal à trouver les mots. C'est la plus grande victoire possible dans le cyclisme, et je l'ai fait. C'était possible, je le savais depuis l'année dernière. Et maintenant, c'est pour nous, pour cette équipe incroyable. Ça montre à quel point on est proches les uns des autres, ce petit truc en plus que nous avons. On est toujours content quand l'un de nous gagne. Je suis vraiment heureux pour Wout aujourd'hui. Ces gars sont vraiment des amis, je dirais même des frères.
La conclusion de cette 109e grande boucle, c'est ce dimanche, 115,6 km entre Paris, La Défense Arena et les Champs-Élysées. Et maintenant, je vous propose la carte postale de cette 20e étape avec Alexis Bédu pour RFI.
Vous connaissez peut-être cette belle région.
Et si vous ne la connaissez pas, le Tour s'en chargera. Le vélo s'invite sur cette terre de rugby. Clément Dupont est agriculteur, mais aussi frère d'Antoine, le demi de mêlée du 15 de France, l'enfant du pays.
C'est complètement inédit. Et je me souviens, quand on était petit, il y avait souvent des passages, hein. Mais de là à être un village départ, donc sur l'instant, l'année dernière, on s'était dit, bon, c'est une erreur, ils y ont pensé, mais finalement, au fil des mois, ça s'est dessiné, donc, et voilà, on est très très heureux, ouais.
Pour accueillir le Tour, Castelnau-Magnouac a pu bénéficier de la notoriété de sa star, Antoine Dupont, et il a fallu trouver l'argent. Cela coûte 80 000 euros pour être village départ, le maire Bernard Verdier.
C'est un formidable coup de projecteur au niveau de l'Hexagone, mais aussi avec, je dirais, toutes les chaînes de télé qui retransmettre sur tout le monde entier.
Le paisible village se transforme pour une journée en foire géante entre coureurs, stands gastronomiques et invités de marque. Quelques heures de fête pour cet habitant.
Mais ce qu'on espère, c'est que les gens vont apprécier ce petit coin de France. On est au calme, on est en contact avec la nature et ça fait énormément de bien de se ressourcer. Venez, on vous accueillera et on échangera avec nos qualités, avec nos défauts aussi, et puis on chantera ensemble.
Pour rappel, le Tour féminin démarre ce dimanche, comme nous l'explique Christophe Diremzian pour RFI.
C'est à elle de se mettre dans la lumière, celle des projecteurs pour un trombinoscope avant l'entrée en scène au cœur de la capitale. 144 privilégiés conscientes de faire l'histoire. Un tour femme par les mêmes organisateurs que le tour homme. Une juste reconnaissance pour Audrey Cordon-Rago, championne de France sur route et du contre-la-montre.
C'est un des plus beaux événements aussi pour le sport mondial. Qu'il soit décliné au féminin, je pense que c'est la moindre des choses après tant de discussions, après tant de preuves qu'on a pu donner aussi ces dernières années que voilà, on est capable de faire aussi bien que les garçons. On en avait besoin pour passer aussi l'étape suivante finalement de la progression du cyclisme féminin. On a bien fait d'attendre parce qu'aujourd'hui je suis ravie de vous voir tout cela et de voir l'engouement qu'il y a autour de la course.
Dernière réincarnation en date de précédentes compétitions des années 80 et 90, arrêtée faute de rentabilité. Ce tour symbolise la transformation du cyclisme féminin doté depuis deux ans d'un vrai circuit professionnel mondial avec 14 équipes, souvent adossées aux structures masculines, qui y mettent de plus en plus de moyens. Exemple avec la FDJ et son budget de 3 millions d'euros pour la formation féminine, de mieux en mieux équipée, se réjouit la jeune Marie Lenette.
Ne serait-ce que cette année, en une année, on a eu deux motorooms, on a eu un food truck, enfin l'équipe elle a grandi de ouf, les résultats ils sont beaucoup plus importants que l'année dernière et encore plus que l'année d'avant et on prend une ampleur. S'il n'y a même pas de mots pour la décrire, c'est juste incroyable.
Mais la véritable avancée est le versement d'un salaire minimum aux coureuses de l'élite, 27 500 euros par an. Adieu les emplois à mi-temps ou les coups de pouce des parents, du moins pour les équipes de première division comme DSM, formation néerlandaise emmenée par la française Juliette Labousse.
Il y a encore beaucoup de disparités dans les équipes, par exemple les équipes continentales. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de filles qui ont du mal à en vivre. Le Tour de France, ça va apporter quelque chose en plus et ramener forcément plus de budget dans les équipes. Et voilà, ce qui manque pour l'instant, c'est la professionnalisation des équipes continentales, donc je pense que ça sera les prochaines étapes à suivre.
L'exposition médiatique apportée par le Tour de France Femmes devrait aider à faire venir plus d'argent, mais du haut de ses 32 ans, Audrey Cordon-Rago apprécie tout de même le chemin déjà parcouru.
On a une grosse génération de jeunes qui connaissent ce nouveau cyclisme féminin, plus professionnel, avec plus de moyens. Moi je sais que oui, j'ai vécu les années compliquées, difficiles, même si j'ai quelque part fait les bons choix tout au long de ma carrière et que je suis moins à plaindre que d'autres qui ont dû arrêter le vélo à cause de ça. Je sais ce que c'est que de se changer au cul de la voiture et je sais aujourd'hui profiter de ce que j'ai et de ce qu'on nous donne. Et ça, je pense que c'est une chance aussi de savoir d'où je viens et de pouvoir profiter un maximum maintenant.
Tunique bleu blanc rouge sur les épaules, la Bretonne n'hésitera pas à essayer aussi le maillot jaune durant cette semaine où la totalité des 20 meilleurs mondiaux se disputeront une victoire à 50 000 euros, une prime 10 fois inférieure à celle des hommes.
Et le tour féminin, ce sera en direct sur la télé SBS à partir de ce dimanche soir. On passe au foot, l'Euro de foot féminin avec les quarts de finale. Hier, les Françaises, les Bleues, ont battu les Néerlandaises 1-0 après prolongation. Martin Guez et Cédric De Oliveira pour RFI.
Cette qualification historique, Martin, ça a été dur, mais c'est passé pour cette équipe de France, une équipe qui donc s'est qualifiée face aux Pays-Bas.
Exactement, une qualification historique, vous l'avez dit. Elles n'ont pas gagné l'Euro, mais c'est tout comme quand on a vu les scènes de joie à la fin de la rencontre. Elles n'entendaient que ça, elles ne s'étaient jamais qualifiées pour une demi-finale d'un Euro. Les Françaises, elles ont couru dans tous les sens, se sont sautées dessus, se prennent encore dans les bras et font des dizaines de photos là depuis tout à l'heure. D'ailleurs, on voit Selma Bacha qui repart avec le trophée de femme du match, joueuse de la rencontre. Elle qui a fait une entrée tonitruante dans cette rencontre. Mais ce n'est pas elle hein, qui a marqué, c'est plutôt F. Périssé, l'arrière droit, qu'on n'attendait pas forcément, celle qui s'est avancée pour prendre le ballon à la 100e minute lorsque l'arbitre a indiqué le point de pénalty après une faute sur Khadidia Toudiani. C'est elle qui a pris le ballon et non Wendy Renard qu'on attendait. Elle a bien croisé son pénalty, F. Périssé. Elle a marqué le seul but du match, 1-0 pour la France qui a enfin réussi a dompté, a trompé l'incroyable Van Domselaar, la gardienne néerlandaise. Rendez-vous compte, 32 frappes pour les Françaises dans cette rencontre, 11 arrêts pour la gardienne de 22 ans qui n'était pas titulaire en début de rencontre. Elle a, en début de tournoi, elle a profité des blessures. Elle avait tout arrêté sur son passage, notamment une tête en pleine lucarne de Wendy Renard en toute fin du temps réglementaire. Mais cette fois-ci, elle n'a rien pu faire face à Périssé. À noter aussi que Delphine Cascarino, par exemple, a trouvé le poteau, que deux énormes immanquables ont eu lieu en première période. Voilà, elles ont beaucoup tenté, mais ça a fini par passer. Elles n'auront pas de regrets cette fois-ci, les Françaises.
La bonne formule, Martin, finalement, cette année, enfin, donc une demi-finale pour une équipe sans star, mais particulièrement solidaire.
Exactement, on ne saurait pas vraiment quelle joueuse ressortir. Je vous l'ai dit, c'est Selma Bacha, la joueuse lyonnaise, qui est repartie avec le trophée de joueuse du match, mais ça aurait pu être à peu près toutes les joueuses. On pense peut-être à Delphine Cascarino, qui a bien dynamité son côté gauche. Elle a trouvé sur son chemin la gardienne Van Domselaar ou le poteau, mais voilà, c'est venu d'un petit peu partout le danger aujourd'hui. On a senti surtout une équipe groupée, solidaire, qui s'est battue tout le long face à des néerlandaises très très rugueuses, qui finalement n'ont pas montré grand chose dans cette rencontre.
L'affiche des demi-finales, France-Allemagne, Angleterre contre la Suède. Pour rappel, en quart de finale, l'Angleterre avait battu l'Espagne 2-1 après prolongation. Jeudi, l'Allemagne s'est imposée contre l'Autriche 2-0. Et vendredi, la Suède a battu la Belgique 1-0. On passe au foot, la CAN féminine au Maroc avec la finale Afrique du Sud et Maroc hier samedi, qui s'est soldée par la victoire des Sud-Africaines contre les Marocaines, 2-1. On passe à un match amical intersaison avec le Paris Saint-Germain qui a battu Urawa Red Diamonds, le club japonais, 3-0. Le Sénégalais Sadio Mané a été élu joueur africain de l'année. Chez les femmes, c'est la Nigériane Assissat Oshoala qui a été récompensée. On passe au tennis avec la finale de Stade qui se jouera ce dimanche entre Berrettini, l'Italien, et Ruud, le Norvégien. À Hambourg, Alcaraz, l'Espagnol, va jouer en finale contre l'Italien Musetti. Bernarda Pera, l'Américaine, a gagné la finale de Hambourg chez les dames contre Annette Kontaveit, l'Estonienne, hier, en deux manches, 6-2 et 6-4. Et à Palerme, ce dimanche, la finale, ce sera entre l'Espagnol Soribes Tormo et Bronzetti, l'Italienne. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.